Perspective stable, les agences de notation Fitch et Moody's n'ont finalement pas modifié leurs notes sur l'état de la dette française qui s'est pourtant aggravée ces derniers mois. Aujourd'hui, la France est le troisième pays le plus endetté de la zone euro avec une dette qui représente 110% de son PIB. On va en parler tout de suite avec notre invité Eric Ayer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Pourquoi donc les notes de la France n'ont pas été dégradées hier soir alors que la situation de la dette française, elle, s'est dégradée ?
Oui, alors effectivement, il y a des situations dégradées de dette, mais globalement, le pays engage tout de même à la fois dans le programme de stabilité une réduction de sa dépense publique, alors qui peut paraître extrêmement élevée, mais qui globalement a une sorte de crédibilité et qui rassure sur la capacité de l'État français à la fois prendre des décisions et aussi à ne pas faire défaut sur sa dette. Ça, je pense que personne ne pensait que la France pouvait faire défaut sur sa dette, mais du coup, les agences de notation ont pour l'instant considéré qu'il n'y avait pas de raison de dégrader la France et que la dette française reste de très haute qualité,
C'est une dette qui est recherchée par les investisseurs.
Disons que aujourd'hui, vous voyez, il faut considérer que on est dans un monde qui est de plus en plus riche, qui est en train de vieillir et avec tout de même de grandes inégalités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'épargne dans le monde et qu'une partie de cette épargne veut quelque part se loger dans des actifs sans risque. Et aujourd'hui, des actifs sans risque, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que dans la sphère privée, il y en a très peu. Les agences de notation ont dégradé énormément d'actifs privés. Et dans les actifs d'État, là où il reste du sans risque, en fait, des États qui sont moins risqués que la France, il en existe, qui sont mieux notés, mais ces États-là, c'est quoi, la Suisse, l'Allemagne, n'émettent plus de dettes, d'accord ? Et donc, du coup, quand vous voulez acheter de la dette sans risque, finalement, c'est la dette française qui arrive assez vite. Et donc, systématiquement, quand l'État français veut émet de la dette, il y a souvent trois fois plus de demandes que finalement de propositions de dette. Et donc, en fait, curieusement, les marchés financiers aiment bien la dette publique et arrivent très vite à la dette française.
Alors, pour autant, Bruno Le Maire l'a répété hier soir, il promet de redoubler d'efforts pour que la France revienne en dessous des 3% de déficit en 2027, année présidentielle. Est-ce que cet objectif des 3% est réalisable d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue politique ?
Alors, je pense que d'un point de vue économique, revenir sur 3% des déficits d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027, me paraît un peu optimiste dans le sens où on vit un moment de ralentissement économique et donc c'est pas la croissance économique qui va permettre d'y arriver et les efforts qui se concentreront uniquement sur la dépense publique puisque le gouvernement ne veut pas utiliser l'arme fiscale, cet effort sur la dépense publique est à mon avis, trop élevé. C'est-à-dire que globalement, il va falloir chercher à peu près 90 milliards de réduction de la dépense publique hors effet des taux d'intérêt. Et donc, 90 milliards en 4 ans, c'est un effort jamais réalisé. Et si on devait le faire, sans doute, ça aurait une incidence significative sur la croissance économique, ce qui amputerait les résultats sur les déficits. Donc, je pense que c'est un peu optimiste de penser y arriver, mais vous voyez, on n'est pas non plus dans l'obligation de le faire aussi vite, et donc c'est un peu ce que nous disent les agences de notation, c'est-à-dire que on peut rester avec un déficit un peu plus élevé que l'engagement, mais il faut tout de même faire des efforts, alors des efforts peut-être un moindre que ce que propose le gouvernement, mais il va falloir faire des efforts.
Et peut-être taxer davantage les gros revenus. Pourquoi le gouvernement se refuse à augmenter les impôts ?
Alors, disons que là, il y a une promesse du président de la République et du ministre de l'économie de ne pas utiliser l'arme fiscale, donc ne jamais augmenter les impôts, en tout cas tant qu'ils sont aux manettes. C'est un engagement qui, pour l'instant, est réalisé, même au cours des 7 années de Macron, on a plutôt même baissé la pression fiscale. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, puisque la dette a augmenté, non pas parce que on a trop dépensé dans le social, mais parce qu'il y a eu deux crises, la crise sanitaire et la crise énergétique, et que tout le monde a bénéficié de ces aides pendant ces 4 années, il semblerait tout de même un peu plus justifié que tout le monde participe au remboursement. Et donc, pour faire participer tout le monde au remboursement de ces aides exceptionnelles pendant 4 ans, ben, seule l'arme fiscale pourrait permettre d'y arriver. Et donc, il est possible qu'en fin de quinquennat, on demande un effort à tout le monde, y compris aux plus aisés. Et donc, ça passerait par un impôt. Alors, quel type d'impôt, ça, ce n'est pas encore décidé. Mais pour l'instant, le gouvernement ne veut pas retenir cette option-là. Mais il est possible qu'il soit finalement contraint de le faire.
Merci beaucoup, Éric Ayer, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques.